Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 2 de la saison 6 d'ici Montferrand, le podcast consacré à l'ASM Clermont. Autour de la table aujourd'hui, Christophe Buron et Arnaud Clergue. Messieurs, bonjour.
Salut Manu, salut Christophe, salut tout le monde.
Bonjour à tous et à toutes.
Au menu de ce nouvel épisode, cette question: pourquoi l'ASM Clermont n'y arrive-t-elle pas à l'extérieur? Vous retrouverez également en fin d'émission les traditionnels top et flop. Alors messieurs, l'ASM s'est incliné 41-22 ce dimanche à Lyon, la 11e défaite de suite des Clermontois en championnat. Alors Christophe, tu étais à Gerland ce dimanche, Clermont était pourtant bien rentré dans la partie avec un essai assez rapide de Raka, l'ASM qui menait 13-0, et puis la machine auvergnate s'est quelque peu enrayée par la suite.
Elle s'est déréglée et les joueurs n'ont pas continué à mettre l'intensité qui était celle qui les caractérisait sur le début de la rencontre. Je pense qu'ils réussissent les 20 premières minutes, les 25 premières minutes, c'était plutôt cohérent. Il y avait 13-0, il y avait même à 16-5, comment une équipe en fin de mi-temps peut laisser passer... c'est passé sa chance. Une équipe qui vise le haut du tableau devrait être en mesure de remporter ce genre de match quand on mène 16-5 juste avant la mi-temps, mais comme tu l'as dit, ça s'est déréglé, et puis on a vu une équipe montrant un autre visage beaucoup plus un peu inquiétant, quoi, avec un manque de densité physique. Ça a été mis en exergue par Christophe Furios notamment, mais pas seulement. Je trouve qu'il y a eu des trous ailleurs en termes de leadership, en termes de caractère, en termes de plein de choses, quoi.
J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait 5 fois ce podcast, en fait, depuis un an, voire 2 ans. Comme le dit Christophe, il y a un manque de densité devant. Ça, c'est clair et net. Et j'ai l'impression, et puis c'était déjà le cas un peu la saison dernière, que c'est une équipe qui a 30 minutes, allez, voire 40 minutes d'autonomie, et une mi-temps. Et puis après, en deuxième période, il n'y a plus rien. Alors, est-ce que c'est un problème physique, de foncier, je parle? Est-ce que c'est un problème d'attitude, de caractère? Très certainement aussi. Tu as parlé du leadership, mais c'est vrai que hier, au moment où Lyon commençait à prendre la direction des opérations, je n'ai pas l'impression que quelqu'un essayait de secouer le cocotier, mis à part Urda Pileta, qui maintenait l'ASM en vie via la qualité de son jeu au pied face au poteau. Mais mis à part ça, j'ai pas vu de leader, j'ai pas vu de rébellion, j'ai pas vu une équipe qui montrait du caractère pour essayer d'inverser la tendance. Et ça, c'est inquiétant, ouais, parce que ça fait un sacré moment que ça dure.
Alors, avant de basculer sur l'analyse de ces matchs à l'extérieur, on va juste revenir, tu disais Arnaud, on a l'impression, effectivement, quand on entend la réaction de Christophe Furios, quand on lit les articles, on a l'impression depuis plusieurs mois de voir des copier-coller. On parlait tout à l'heure de l'ASM qui tient pendant une mi-temps l'heure de jeu et puis qui bascule derrière. Ça s'était déjà vu lors de la première journée du côté d'Oyo, où l'ASM était au contact encore à l'heure de jeu avant de s'incliner. La rebelote, c'est vrai que c'est des choses qui se reproduisent constamment.
Parce que c'est une équipe qui n'a pas de certitude et qui donc n'a pas de confiance. Donc une équipe en confiance, on l'a vu hier soir, dimanche soir, j'ai vu la fin du match entre Toulouse et Bordeaux. C'est une illustration parfaite d'une équipe qui est mal embarquée, qui a été dominée, qui est menée, mais qui, sur la base de sa confiance et, je pense, de ses convictions dans le jeu et dans beaucoup de choses, parvient à inverser et à gagner ce match.
Et à sortir Bordeaux du bonus, en plus.
Et à sortir Bordeaux du bonus, quoi. Et c'est toute la différence aujourd'hui entre une équipe, un club qui surfe sur quand même des certitudes et un capital confiance important, et une équipe de l'ASM qui voit passer les semaines, les mois, et peut-être même les années, et c'est caractérisé par ses difficultés à s'imposer en déplacement.
Ouais, c'est ça. Dès que l'équipe adverse commence à prendre les devants au score, ils doivent se
dire... Même avant.
J'ai l'impression que le premier essai de Lyon a complètement changé la donne.
Et pour en avoir discuté un peu après avec le coach... Ce premier essai, il vient en plus parce qu'ils sortent du cadre. Ils mettaient de la pression sur les ballons hauts parce qu'ils savaient que les Lyonnais pouvaient être en difficulté sur ces ballons. Ça a marché pendant 20 minutes. Et là, tout d'un coup, il y a un coup de pied qui est un coup de pied long qui donne un ballon de relance aux Lyonnais, ce qu'il ne fallait pas faire parce qu'ils étaient 4 sur le dernier rideau. Et ils prennent un essai là-dessus. Donc ça veut dire que même rugbystiquement, ils sortent des fois des schémas. Et là, ça y est, c'est la petite araignée dans le plafond, et puis ça commence à cogiter. Alors qu'il y avait 16-5, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, c'est incroyable. Et puis après, bon, après, ils prennent des essais qui sont d'un autre monde. Comme le dit avec ses mots Urios, comment c'est possible ?
Je ne pas l'accent. Le dernier essai.
Oui, mais le dernier essai, bon, il coûte.
C'est un contre.
Le dernier essai, il est presque anecdotique, parce qu'il, hormis, bon, pas pour Lyon, parce que c'est le bonus, mais c'est surtout celui de la 43e. Quoi. Il y a un maul pour l'ASM qui avance. Là, ils perdent le ballon, on ne sait pas trop comment. Ils prennent un essai de 80 mètres derrière. Quoi. Non, mais c'est juste incroyable. Quoi.
Alors, il y a une déclaration que je trouve assez intéressante de Christophe Furios à la fin du match, où il dit « On ne découvre pas qu'il nous manque beaucoup de choses. » Mais c'est vrai que c'est...
Mais il fait le même constat que nous. Quand Arnaud dit qu'on fait les mêmes podcasts depuis 2 ans, et, lui, il a moins de vécu ici à l'ASM, mais il commence à avoir... une vision des mots qui sont récurrents ici, quoi. Enfin,
alors,
des manques.
Pour le reprendre, bien sûr, donc il parle des avant, pas assez concurrents, mais chose qu'il avait déjà constaté la saison dernière.
T'avances pas, quoi.
Il a parlé de l'indiscipline, il a parlé également des essais pris trop facilement, donc il remet en cause la défense. Alors, on sait que Christophe Furios s'appuie sur un triptyque toujours assez précis à l'extérieur, l'état d'esprit, la dimension physique et les bases du rugby. Ce dimanche à Lyon, les Clermontois n'ont pas coché les cases. Là.
Ah bah ils n'ont pas coché les cases, oui, ça c'est clair. Hein. Les trois n'ont pas été cochés pendant 80 minutes en tout cas. L'esprit, j'ai l'impression qu'il était là sur les 20 premières minutes, sans problème. Le physique, bon, bah, ils ont tenu le coup, ouais, pareil, un gros quart d'heure. Et puis rugbystiquement, il y a eu des manques aussi. Donc non, ils ne cochent pas les cases tout de suite pour aller à l'extérieur. Et pour réappuyer sur un domaine particulier, et je trouve que c'est décevant de la part de certains joueurs, c'est ceux qui sont catalogués, qui sont désignés comme des leaders quoi, dans cette équipe. Franchement, j'attends beaucoup plus de joueurs comme Simonet, comme Simons, même Fainga, quoi. Ah, tiens, trois Australiens, curieux. ces joueurs-là, aujourd'hui, là, ils me font plus l'effet d'être des suiveurs que des leaders.
Bah, c'est embêtant, Simonet, puisqu'il est quand même capitaine.
Ça pose question.
Je m'interroge énormément sur le fait de choisir Simonet capitaine. Moi, je ne l'ai pas vu faire un bon match depuis qu'il est à Clermont, depuis une saison, un peu plus d'une saison maintenant. Et je ne vois pas ce qu'il l'entraîne en leadership dans cette équipe. Il est capitaine depuis le début de la saison. Je ne vois pas. Je ne vois pas concrètement sur le terrain ce qu'il amène dans son leadership. J'ai du mal à le voir.
Je pense que ce brassard, il va être remis en question si ça continue assez rapidement, je pense.
Oui, parce qu'après, il peut y avoir des choses dans la vie d'un groupe. On ne vit pas 24 heures sur 24 avec
oui,
eux.
Oui, mais même, il y a un moment, il faut quand même que sur le terrain, ça apporte quelque chose. Il faut que... faut que ce capitaine-là, il ait du sens.
Il y a des choses qui m'ont interpellé hier. C'est notamment Ward Apileta qui décidait de si on prenait les points au pied ou pas. J'ai l'impression que c'était Ward Apileta, le leader sur le terrain.
D'abord, c'est un vrai leader, lui, pour le coup. Mais là, tu touche à un domaine, le tir au but, c'est souvent l'ouvreur qui va décider de savoir s'il est en état.
C'est dans la manière de communiquer.
S'il la sent. Ah, bah après, c'est un argent.
Ouais.
Bah parce que c'est un vrai leader. Et c'est il va dire ce qu'il pense. C'est un Morgan Parra, c'est le même style. Quoi. C'est eux qui vont. Ils ont cette façon de le dire, et en effet, dans la façon, dans la forme. On peut penser que c'est eux les vrais chefs.
Et est-ce que Christophe Furios n'a pas osé mettre Apileta tout de suite capitaine, comme il avait fait venir? On sait que voilà, c'est un joueur avec...
Alors non, moi, il m'a toujours dit que c'était pour lui, c'était pas le capitaine... Il avait beaucoup de qualités, mais qu'un capitaine comme lui, c'était pas forcément une bonne chose. Parce que le caractère et tout, c'était pas forcément... Peut-être qu'il n'est pas...
Peut-être un peu too much.
Pas fédérateur à 100%. Oui, c'est peut-être pas le capitaine qu'il faut.
Mais alors, Déjà la saison passée, on avait relevé ses manques. Alors au bout d'un moment, on disait qu'il fallait que la méthode Urios se prenne. Après, il y avait des joueurs blessés, il faut attendre que les blessés reviennent. Là, c'est une nouvelle saison. On disait la saison prochaine, avec un effectif bâti par Christophe Urios, ça va aller mieux.
Bon, on va attendre que les recrues arrivent.
Les mois passent et les problèmes restent les mêmes. Est-ce que justement, il n'y a pas des erreurs au niveau du recrutement ? Alors, tous les joueurs ne sont pas là. On va attendre effectivement quand les Argentins vont arriver.
Sourakula
aussi, quand il sera là. Parce qu'on a vu clairement effectivement que les Clermontois devant avaient eu du mal ce dimanche.
Je pense quand même j'ai peut-être la naïveté de me dire que quand on va mettre un Kremer, quand on va mettre un Sowakula et quand il y aura un Lavanini sur le terrain, j'ai la naïveté de me dire que cette équipe devant sera un peu plus dominante physiquement. C'est ce qui a cruellement manqué hier à Lyon, et ça avançait pas. Il n'y a aucun joueur, peut-être à part Ojovan, qui a avancé hier. Avec ces joueurs-là qu'on a vus pendant la Coupe du Monde, hein, je parle de Kremer qui a été physiquement assez impressionnant dans tous les matchs qu'il a disputés. Je pense quand même que ça devrait régler des choses là-dessus, mais encore faut-il le voir.
Alors, j'ai une autre question, je vais rebondir par rapport à ce que tu dis, Arnaud. Admettons effectivement que ces joueurs apportent quelque chose, c'est tout le mal qu'on va leur souhaiter. Va se poser une autre question derrière, c'est quand on a l'équipe type, le 15 type pourra apporter des choses, mais quid derrière ? Il y aura peut-être un 15 intéressant, mais Christophe Urios, quand on voit en plus l'enchaînement des matchs qu'il va y avoir, va pas pouvoir mettre son équipe type
la difficulté,
chaque week-end.
C'est vrai qu'il peut être confronté à un problème de gestion, quoi, de management, c'est que si cette équipe plus les matchs vont passer, plus il va y avoir la pression d'aller gagner les matchs à l'extérieur. Et ça veut dire qu'il va être obligé de mettre sa meilleure équipe à l'extérieur souvent pour gagner des matchs, voire tout le temps. Et comme c'est aussi le cas à la maison, pour pas avoir un faux pas à la maison, ça veut dire en effet qu'il risque de pas trop faire tourner et ça peut poser en effet un problème. C'est pas comme une équipe qui va gagner ses deux premiers matchs en déplacement, après elle peut se permettre de gérer, de faire tourner, de... Voilà. Alors que là, imaginez qu'ils perdent encore à Montpellier, qu'ils ramènent rien. S'il faut viser un point à Toulouse, pour aller viser un point à Toulouse, alors, surtout fin novembre, c'est-à-dire que le stade toulousain aura retrouvé tous ses
intersaisons,
ça veut dire que le staff va être obligé de Clermont va être obligé de mettre sa meilleure équipe. Donc voilà, il risque de tirer sur la corde de souvent des mêmes joueurs.
Oui, juste un petit mot, un petit aparté pour donner le calendrier des Clermontois lors des prochaines semaines. Donc il y aura la réception de Bayonne ce samedi, un déplacement à Montpellier le 11 novembre, la réception de Toulon le week-end suivant, ce déplacement à Toulouse, ensuite la réception du Racing début décembre avant la première parenthèse européenne, et enfin un déplacement à Pau le week-end des 23-24 décembre. Prochain déplacement compliqué du côté de Montpellier et de Toulouse. Quand on voit l'enchaînement des matchs, on sait que le prochain week-end de repos ne sera qu'en février. Si Christophe Urios doit tirer sur la corde de ses leaders.
Tu parlais des mots récurrents, notamment en termes de blessés. L'ASM a attaqué cette saison encore avec trois joueurs des blessés longue durée, que sont Fischer, Bérégaray, Boudou. C'est vrai qu'il y a encore des joueurs, plus de 6 mois d'absence, quoi. C'est énorme, quoi.
Alors, je me suis plongé un petit peu dans les archives. J'ai regardé depuis avril 2021. Il y a eu 32 déplacements de l'ASM en championnat, en top 14. Sur ces 32 déplacements, l'ASM s'est incliné à 29 reprises. Il y a eu
3 victoires
seulement. Du côté de Montpellier, alors c'était le 16 octobre 2021.
Biarritz et Perpignan,
tout à fait. Biarritz en mai 2022 et Perpignan en octobre.
Montpellier, c'est quasi un miracle parce qu'à la sirène, Pollard rate une pénalité.
Ouais. Et on a vu qu'il n'en loupe pas beaucoup.
ce qui n'est pas fréquent chez lui.
Ça coïncide aussi forcément avec la perte de vitesse de l'ASM depuis plusieurs saisons.
Bien sûr, ouais.
Mais est-ce que psychologiquement, cette victoire, alors en plus qui est martelée assez régulièrement, est-ce que psychologiquement, ça pèse, et puis...
Forcément, on le disait tout à l'heure, dès que cette équipe, dès qu'elle voit à l'extérieur, dès qu'elle voit l'adversaire prendre un peu les devants et passer un peu devant au score, à la table de marque et même dans le jeu, elle doit se dire « Ah ça y est, c'est reparti comme avant, on va encore perdre ce match ». J'en suis persuadé qu'il y a un manque de confiance totale dans cette équipe. Mais là aussi, ça doit être les leaders qui doivent prendre le lead, justement, et doivent remettre d'aplomb cette équipe. Mais bon, les leaders, j'en vois pas beaucoup.
Qu'est-ce qui peut en parler des leaders? Est-ce qu'une victoire,
c'est
un déclic peut-être qui pourrait
servira de déclic. Ça c'est une certitude. Maintenant, qu'est-ce qui fera qu'ils s'imposeront à l'extérieur? Il faudra cocher les cases dont tu as parlé tout à l'heure. Et pour l'instant, ils en sont loin. Donc, est-ce que l'arrivée des joueurs qui sont encore en attente, on pense aux deux Argentins, à Sobrecula, à des joueurs comme ça. Il faut voir.
Peut-être miser sur des équipes du bas de classement. Le problème, c'est que c'est déjà fait. Et Perpignan, ça, je crois que c'est le dernier match de la saison.
Ah oui, non, là, tout de suite, c'est pas pour tout de suite. Comme le championnat s'est resserré. Dans le temps, on disait, oui, tiens, à Pau, on peut aller faire un truc. Mais aujourd'hui, Pau est leader un peu étonnant, mais ça ne va peut-être pas durer. Mais bon, le 23 décembre à Pau, il faudrait se le pleurer, quoi.
Oui, c'est clair.
Oui, mais c'est vrai que c'est... effectivement, ça ne va pas...
Perpignan, il me semble bien que c'est le dernier
match. Ça ne va pas être simple. Ouais. Et puis, il y a cette défaite, encore une fois, à Oyonnax. Et ça veut dire que le premier faux pas à domicile, s'il y en a un, mettra encore une pression supplémentaire. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que pour accrocher le top 6, il va falloir aller chercher des victoires à l'extérieur.
Obligatoire.
Rappelez-vous Bayonne la saison dernière.
C'est vrai, tout à fait.
Premier faux pas à domicile.
Et Bayonne se présente samedi du côté. On suivra ça avec intérêt, cette réception de Bayonne et puis ce déplacement qui suivra du côté de Montpellier, et on verra si l'ASM parvient enfin à décrocher un premier succès du côté de l'Hérault. Ce sera le samedi 11 novembre à 17h. Merci messieurs en tout cas pour cette question, ce débat de ce podcast. On va enchaîner avant de se quitter sur les tops et les flops. Alors, on n'en avait pas fait la semaine dernière pour le podcast de reprise, retour de ce rendez-vous, et mon petit doigt me dit qu'on va peut-être parler de la Coupe du Monde, Arnaud.
Oui, on va parler de la Coupe du Monde. Alors, j'ai un flop concernant l'arbitrage dans cette Coupe du Monde, et sans vouloir, je n'ai pas rentré dans les polémiques avec en visant Wayne Barnes ou en visant Ben O'Keefe, c'est pas l'intérêt de mon propos. Je trouvais que c'est un arbitrage qui manquait totalement de cohérence tout au long de la compétition. Et il faut absolument que World Rugby se penche là-dessus. Dans les rucks, il n'y a pas un match où c'est arbitré de la même façon. Quand on voit Quagga Smith qui met les mains par terre avant de gratter un ballon, ça doit être sanctionné. Et ça fait deux fois pénalité pour l'Afrique du Sud, sans enlever le mérite. Sans enlever le mérite aux Springboks qui ont fait une Coupe du Monde énorme, mais ça a été deux moments cruciaux dans les matchs contre la France et la Nouvelle-Zélande, ça n'a pas été sifflé. Alors l'arbitre sur le terrain ne peut pas tout voir, ça c'est clair et net, mais que je sache, il y a des TMO. Et je trouve qu'il y a un manque de communication entre le TMO, justement, un manque de communication avec le corps arbitral. Enfin, c'est pas possible, le TMO, de lui dire « Attention, t'es en train de te tromper ». Et à aucun moment, ça arrive.
Et ce qui crée des polémiques derrière, justement.
Ce qui crée des polémiques inutiles et ce qui entraîne des sifflets qu'on a vu avec Ben O'Keefe avant la demi-finale. C'était justement Afrique du Sud, Angleterre. Ça ne doit pas arriver. Mais je veux dire, on donne des moyens aux arbitres, au corps arbitral, d'arbitrer comme il faut et de prendre les bonnes décisions. Et ce n'est pas le cas. Et il n'y a pas que sur les rucks, les charges à la tête, c'est jamais arbitré pareil. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence totale, et si World Rugby ne se penche pas là-dessus, ça va, déjà que le rugby possède des règles compliquées, ça va être difficile de regarder des matchs de rugby dans le futur si on ne se penche pas là-dessus de manière précise
De toute façon, il n'y aura jamais une cohérence totale, parce que c'est un sport d'interprétation. Donc à partir de là, voilà, c'est sujet à interprétation. Donc la même action sera probablement pas analysée et avec les conclusions identiques selon l'arbitrage vidéo qui sera sollicité.
Sur les rucks, c'est pas un sujet à interprétation. On dit qu'il faut pas mettre les mains par terre avant de gratter le ballon.
Là, d'accord. Mais sur les contacts, c'est vrai que les deux contacts qu'on à la tête qui ont émaillé cette finale, c'est celui de Sam Ken et celui de Colissi. Quelle est la différence? C'est très 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 compliqué à dire. Ça, c'est clair que évident. Si il y en a un qui a eu un rouge, l'autre un jaune. Ouais. Voilà. Moi, je veux bien qu'on protège évidemment la santé des joueurs. Il n'y a pas de problème. Mais même celui de Sam Ken, il touche le visage. C'est indéniable. Mais bon, Krill, ça l'a pas fait, ça lui a pas fait bouger la tête et il est reparti. Enfin, je veux dire, il y a pas eu de, il y avait dans la mesure où il y a pas d'intentionnalité et que le joueur en face, ni commotionné ni rien du tout, il a même pas été ébranlé quoi. C'est un rouge qui a pesé, qui a pesé lourd quoi dans cette finale.
Et surtout en plus quand le match se joue à un point,
ça pesait très lourd. Mais bon,
forcément, on peut pas comme ça. Un top.
Alors mon top, il va rester sur la Coupe du Monde et c'est vrai que bon, c'est l'Afrique du Sud. Parce que c'est une équipe que beaucoup ont critiqué en disant ils nous ont battus, certes, mais bon, on va pas revenir sur l'arbitrage, mais ils font pas un jeu extraordinaire, ils nous ont quand même mis 4 essais. Alors, déjà, quand vous encaissez 4 essais et qu'aucun n'est entaché de quoi que ce soit, d'irrégularité particulière, ça veut dire qu'il y a quand même un souci. Pour moi, c'est stratégiquement, tactiquement, c'est la meilleure équipe, et évidemment, c'est les plus forts en termes de densité physique, en termes d'impact. Ils ont des clients quand même que peu d'équipes ont, et c'est ce qui fait que cette équipe est double championne du monde, que c'est le chef étoilé de la planète rugby aujourd'hui, 4 étoiles, hein, il n'y a pas de hasard. Et comme il n'y a pas de hasard dans leurs 3 victoires à un seul point d'écart.
Avec des choix forts au niveau des compos d'équipe aussi, des choix forts, ils n'ont pas hésité à changer.
Le duo Rasmus-Niebar, sur le plan tactique, sur le plan de la stratégie, a parfaitement joué cette Coupe du Monde. Et moi, si j'avais un constat à faire sur ce mondial que beaucoup et même les plus éminents techniciens du rugby promettaient à l'hémisphère nord et ou à l'Irlande ou à la France pour pas les citer, le constat que je dirais, c'est que les équipes du Sud, enfin les nations du Sud, ont une expérience unique et de ce genre de compétition qui dure 2 mois. Et il n'y a qu'à prendre les 2 matchs clés du premier tour remportés par l'hémisphère nord, c'est-à-dire la France contre les Blacks en match d'ouverture et l'Irlande contre l'Afrique du Sud. On en a fait une ouverture de porte sur la voie royale, alors que les 2 vaincus de ces 2 matchs, que ce soit les Blacks et les Sud-Africains, c'était un match lambda. C'était un match de poule, perdu certes, mais qui ne changeait absolument rien à leur programme pour la suite, et notamment pour les phases finales. C'est parce qu'ils avaient intégré le fait que les aberrations du tirage au sort effectué il y a 3 ans et demi leur promettaient en quart de finale, quoi qu'il arrive, ou la peste ou le choléra, c'est-à-dire ou la France ou l'Irlande pour l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Donc, alors que nous, on s'est un peu trop glorifié, on a trop monté en épingle probablement. Je pense surtout à la France face aux Blacks. Non, cette compétition a duré 2 mois et c'est pas pour rien que depuis 40 ans, compétition a été remportée 9 fois sur 10 par les équipes du Sud.
Genre pour preuve, moi je trouve qu'il y a un choix que le staff de l'Afrique du Sud a fait qui s'est avéré payant dans les matchs couperés. C'est quand le talonneur Malcolm Marx s'est blessé, je crois que c'était après le match contre l'Irlande, ils ont appelé André Pollard parce qu'ils ont vu contre l'Irlande qu'il leur manquait un buteur très fiable. Ils ont perdu le match contre l'Irlande là-dessus, ils ont appelé Pollard, et dans les matchs couperés, Pollard il est à 13 sur 13 et 100%, il est à 100% face au poteau, et ça a compté dimanche soir quand Mounga a laissé passer 5 points. Pollard il a mis les 12, il a fait 4 sur 4.
Mounga 2 et Jordi Barrett 3,
ouais,
bon. Et les Blacks en ont perdu 5.
Ouais, ils en ont perdu 5, donc voilà, c'est des petits détails. Ils ont parfaitement géré ces 2 mois de compétition comme l'a dit Christophe, et il n'y a pas de hasard.
Bah, les matchs qui comptent, c'est à partir les matchs de phase finale. Et force est de reconnaître effectivement que ces 2 nations
et un point, c'est tout.
Au rendez-vous, et un point c'est tout. Belle conclusion, Christophe, pour ce podcast. Merci messieurs de m'avoir accompagné. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, belle semaine à tous. Bonne fin de journée. À bientôt.
Merci, salut, au revoir.
Salut.